Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon carnet de voyage. Je me présente, Yana Delière, sommelière et passionnée de voyages viticoles. Dans cette série de 3 épisodes, je vous embarque avec moi à la découverte d'un vignoble incontournable d'Espagne et même du monde, la Ribera del Duero. Dans ce podcast, je vous ouvre les pages de mon carnet de voyage. Mon objectif, me plonger au cœur de cette région, découvrir ses paysages, fouler les sols de ses vignes, rencontrer les vignerons et déguster un maximum de cuvées pour toujours mieux comprendre les vins de la Ribera del Duero. Épisode 2. Le roi et les autres. Mes surprenantes rencontres avec les cépages. Dans le premier épisode, nous avons vu ensemble que ce vignoble est loin d'être un long fleuve tranquille, avec ses montagnes, son altitude et son climat parfois extrême. Et nous avons laissé en suspens 2 questions. Comment le Tempranillo a-t-il pu s'adapter à tous ces contrastes? Et quels sont les autres cépages qui cohabitent avec ce roi? Vous allez voir que les réponses à ces questions se trouvent au cœur même des traditions les plus anciennes de la région. Je vous invite donc à vous promener avec moi de vigne en cave pour mieux comprendre ce qui fait l'âme même des vins de la région, ces cépages. Mais avant de démarrer, j'aimerais commencer tout de suite par déconstruire une idée reçue disant que la Ribera del Duero ne produit que des vins rouges puissants. J'ai découvert une réalité bien plus nuancée et intéressante. Le retour aux sources, de vieilles vignes et des cépages oubliés. En arrivant ici, j'ai été frappée par l'incroyable croissance de l'appellation. En effet, depuis sa création en 1982, elle est passée de moins de 6000 hectares à plus de 26 500 hectares de vignes aujourd'hui. C'est une expansion fulgurante durant laquelle une question primordiale s'est posée, celle de la liste des cépages autorisés. Le premier a trouvé sa place dans cette sélection, bien sûr, le Tempranillo, et nous verrons qu'il n'est pas seul. Sur les parcelles les plus anciennes, une réalité fascinante subsiste. Les vignes coplantées. J'ai eu la chance de tomber sur des parcelles centenaires où plusieurs cépages poussent ensemble, parfois même un mélange de rouge et de blanc. J'ai trouvé ça fascinant de voir qu'une parcelle à elle seule pouvait raconter toute l'histoire de la région. Et ce n'est pas tout. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la présence de sols sablonneux qui ont miraculeusement protégé la vigne. C'est grâce à ces sols que la Ribera abrite de très nombreuses, très vieilles vignes. J'ai été bouche bée quand j'ai appris que plus de 6% des vignes ont plus de 80 ans et que certaines frôlent les 200 ans. C'est un vrai trésor vivant. Pour valoriser ce patrimoine, la DO a même créé des mentions spéciales sur les étiquettes comme « Vinas Viejas » pour les vignes de plus de 35 ans ou « Viñedo Centenarios » pour les vignes centenaires. Et si vous êtes un vrai passionné, vous pourrez même dénicher des bouteilles avec la mention « Viñedo Filoxerico » pour des vignes datant d'avant la crise du phylloxéra. Le Tempranillo, un cépage aux 1000 visages. Mon voyage au cœur des cépages commence donc par une évidence, le Tempranillo. C'est le roi incontesté de la région, appelé ici Tinto Fino ou parfois Tinta del País. Aujourd'hui, il représente près de 90% de la production. Dans les vins rouges de l'appellation, il doit occuper au minimum 75% de l'assemblage. Le Tempranillo a une histoire si longue et complexe qu'il reste encore des zones de mystère. Mais une chose est sûre, il est emblématique d'Espagne et de la Ribera del Duero. Les analyses génétiques ont permis de mettre en lumière une relation parent-enfant entre le Tempranillo et l'Albillo Mayor, un autre cépage phare de la Ribera avec lequel il cohabite depuis toujours et dont nous parlerons un peu plus tard. Pour commencer, j'ai été fascinée de découvrir ces différents modes de culture. Au moment où la région s'est développée, les vignerons ont d'abord beaucoup planté dans la plaine du Duero, avec des vignes conduites sur fil pour faciliter la mécanisation. Mais paradoxalement, de nombreux vignerons ont décidé d'en faire autrement. J'ai vu des vignobles plantés sur les pentes selon des méthodes traditionnelles du gobelet. C'est plus exigeant, mais la qualité est au rendez-vous. La densité de plantation est plus forte, ce qui crée une concurrence entre les vignes pour les ressources et les pousse à créer des réseaux racinaires plus profonds. C'est une lutte qui renforce la vigne et concentre les arômes. D'ailleurs, j'ai pu constater, en échangeant avec plusieurs viticulteurs, que la mécanisation pour les vendanges a reculé. Aujourd'hui, 65 à 70% des vignobles sont vendangés à la main, un gage de qualité remarquable. Sur ces parcelles anciennes, j'ai fait la découverte fascinante de vignes complantées. Il était courant de vendanger et de vinifier ensemble ces raisins, aussi bien blancs que rouges. Les mélanges pouvant aller à la parité entre les deux couleurs, il était alors courant de se retrouver avec des couleurs rosées. Ces vins étaient alors, à l'époque, très emblématiques de la Ribera del Duero. C'est le témoignage d'une tradition ancestrale qui met en lumière la richesse de son histoire que l'on abordera dans le prochain chapitre. Revenons à notre cher Tempranillo, et j'aimerais qu'on s'arrête sur son potentiel de garde et sur l'évolution des styles. Les vignerons de la Ribera del Duero ont vite compris l'incroyable capacité du vieillissement de leur cépage roi. Dans les années 80, la tendance était au vin élevé longuement en fût, une valorisation prolongée que le Tempranillo supporte admirablement, développant une complexité aromatique hors pair. C'est ainsi que sont apparues les classifications Crianza, Reserva et Grande Reserva, basées sur le temps d'élevage bien précis. C'est impressionnant de penser que les Grandes Reserva ont un minimum de 60 mois d'élevage. Et ce qui est fantastique, c'est que ces années passées en cave leur donnent une capacité de vieillissement encore plus importante, des décennies parfois. C'est pour illustrer cette force de caractère et le potentiel de garde qui peut être incommensurable du Tinto Fino que j'aimerais vous présenter une cuvée Grande Reserva du domaine Hermanos Pérez Pascuas que j'ai eu la chance de déguster durant mon voyage, accompagnée de traditionnelles côtelettes d'agneau cuites à la braise. Cette cuvée, issue du millésime 2015, a donc près de 10 ans aujourd'hui. Il s'agit d'une seule parcelle de vigne âgée de 80 ans et plus, plantée sur un sol argilo-calcaire à 840 mètres d'altitude. Au nez, il dévoile des arômes tertiaires profonds de tabac, de café ou encore de chocolat noir. En patientant un peu, des notes plus végétales, de pain, mais aussi d'herbes aromatiques apparaissent, suivies par un profil de champignons nobles. C'est une symphonie. En bouche, le vin est marqué par une trame umami subtile, soulignée par une délicate acidité. Les tanins sont soyeux, ils enrobent le palais pour laisser une sensation suave et persistante. Le vin est long et complexe, et même s'il est déjà bien abouti aujourd'hui, il possède encore un très très beau potentiel de garde. Ce vin est très représentatif d'un style qui a longtemps été la norme, mais il est important de nuancer ce contraste. Ces dernières années, on voit de plus en plus de vignerons qui s'affranchissent de cette classification basée sur l'élevage prolongé. Ils se dirigent vers des vins plus légers, aux macérations plus courtes et aux élevages moins prononcés, dans des contenants différents comme le béton ou les amphores. Ces vins portent alors la classification de Côte Secha. Faut que je rajoute un bout de dégustation ici. J'enregistrerai après. Les cépages d'assemblage, l'émergence des vins blancs. L'idée de vin en monocépage pur est plutôt récente dans le paysage de la Ribera del Duero. Le travail de l'assemblage est clé. La tendance mondiale des années 80, fortement influencée par des critiques comme Robert Parker, a d'ailleurs poussé à l'introduction de cépages bordelais. Le Cabernet Sauvignon, suivi du Merlot et même du Malbec, sont désormais officiellement autorisés dans les assemblages des vins de la Ribera del Duero. Pour illustrer cette richesse, j'ai eu la chance de découvrir le vin du domaine Vivaltus. Il s'agit ici d'un assemblage de 99% de Tinto Fino et de 1% de Merlot sur le millésime 2019. L'année 2019 a été globalement sèche et chaude, mais des pluies à la mi-septembre ont permis aux raisins de terminer sa maturité plus tranquillement, en maintenant une acidité salvatrice dans les vins. Croyez-moi, j'ai été moi-même surprise, mais même avec un seul pourcent, le Merlot se fait ressentir ici. Le vin est élégant, les tanins sont bien intégrés et laissent en bouche une certaine salinité très appréciable. L'aromatique est complexe, on sent que le vin commence à exprimer certaines touches de sous-bois qui me rappellent la délicatesse de certains pommerolles après quelques années. On retrouve aussi sur l'aromatique du Tempranillo des notes de fruits rouges très mûrs et de chocolat noir. Mais dans cet assemblage, le Merlot fait clairement la différence par son apport en acidité et par son profil subtil et délicat. Mais je dirais que ma plus grande surprise, la dégustation qui m'a le plus marquée, c'est la découverte des vins blancs. C'est une véritable révolution. En 2019 seulement, la législation a changé en faveur des vins blancs. C'est tout nouveau. Et depuis ce millésime, il est possible d'avoir donc des vins DO Ribera del Duero à base d'Albiomayor. Ce cépage blanc était pourtant déjà bien présent dans la région, souvent complanté et assemblé au Tempranillo par petites touches pour apporter un équilibre. Il a été dévalorisé pendant des années, mais son introduction dans l'appellation comme le cépage blanc de la Ribera del Duero lui promet un très bel avenir. Je vous propose déjà de le découvrir, cet Albiéu Mayor, dans sa version traditionnelle, c'est-à-dire assemblée au Tempranillo. Dans cet esprit, la cuvée Bancales del Sardal du domaine Magna Vibes, sur le millésime 2022, m'a beaucoup surprise lors de mes dégustations. Déjà parce que l'on est ici sur une parcelle à plus de 850 mètres d'altitude, de vignes très anciennes puisqu'elles ont été plantées en 1920, mais aussi parce qu'il s'agit d'une coplantation de 75% de Tempranillo et 25% d'Albiéu. Ce type de cofermentation blanc-rouge à cette proportion est plutôt rare dans le monde du vin. Au nez, le vin présente des notes de griotte et de menthe avec une dimension florale. À l'aération, un profil de sous-bois apparaît, complexifiant l'ensemble. En bouche, un équilibre remarquable avec une belle acidité rend le vin très aérien et ce, malgré une année très solaire. Vous vous rappelez 2022 ? La bouche est une dualité entre légèreté et structure avec des tanins offrant une belle mâche. Le bois est bien intégré, on le ressent juste à la rétro-olfaction à travers des notes vanillées qui accompagnent l'aromatique du Tempranillo, plutôt sur des fruits rouges, bien mûrs, comme la fraise ou la cerise. C'est sensationnel, comme les deux cépages s'entendent et se répondent dans ce vin. Une vraie cohésion qui s'exprime à travers un vin délicatement équilibré. Une nouveauté blanche. La grande nouveauté qui marque le vignoble de la Ribera del Duero, c'est qu'il est maintenant possible de déguster des vins composés exclusivement d'Albiéu Mayor. C'était une grande première pour moi lors de mon voyage. J'ai pu déguster plusieurs cuvées d'Albiéu Mayor. Une de celles qui m'a de loin la plus impressionnée, c'est celle du domaine Dominio de Atauta, sur le millésime 2022. La richesse exceptionnelle de ce domaine réside dans ces très très vieux vignobles. Ici, les cèpes d'Albiéu Mayor datent de la période préphylloxérique. Elles ont entre 130 et 190 ans. Nous sommes dans la province de Soria, le plus à l'est de l'appellation, une des régions les plus isolées et les plus hautes, où la forte teneur en sable dans le sol a miraculeusement protégé les vignes du phylloxéra. Le vin présente un nez très floral, faisant penser à un pot-pourri délicat. À l'aération, ces notes s'atténuent pour laisser place à des arômes d'amandes comme le massepain et des mélanges d'herbes aromatiques, de tisane. La bouche est structurée et très élancée par une acidité franche et vive. La finale est marquée par une minéralité crayeuse qui rend le vin très long en bouche. Cette fin de bouche est accompagnée par des notes qui m'ont surprise, qui sont complexes à la fois d'ananas caramélisé et je dirais d'absinthe douce. C'est vraiment une grande découverte pour moi. C'est sur ce grand vin blanc que nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode passionnant. Ce focus sur les cépages de la Ribera del Duero nous a montré toute sa diversité, sa capacité à produire des vins basés sur son roi, le Tempranillo, mais aussi à se réinventer en mettant en lumière des cépages historiques oubliés comme l'Albiéu Mayor. J'espère avoir réussi à déconstruire cette idée reçue d'un vignoble qui ne produit que des vins rouges puissants. Maintenant que nous avons percé le secret du terroir et des cépages, il me reste une thématique qui est essentielle d'appréhender pour bien connaître une région viticole, son histoire. Et dans le cadre de la Ribera del Duero, je me demande comment une région qui a failli disparaître dans les années 70 a-t-elle pu devenir une référence mondiale en si peu de temps ? Et quelles sont les figures emblématiques qui ont façonné cette incroyable renaissance ? Je vous donne donc rendez-vous pour le dernier épisode, l'épilogue de mon carnet de voyage, où nous plongerons dans l'histoire, l'économie et la gastronomie de la Ribera del Duero. Ne manquez pas ça ! Écriture et voix, Yana Delière. Montage et musique originale, Respiro.media. Cette série a été réalisée en partenariat avec le Cancer Regulator de la Ribera del Duero. Un immense merci à l'équipe pour leur accueil dans la région.